الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الثالث من شهر رمضان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثامن في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 8 juin 2016 et nous sommes aujourd'hui dans le 8e cours de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de son auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Nous sommes toujours dans le 3e chapitre باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب, chapitre quiconque concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement. Nous avons vu les deux premiers versets, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin, et son sens, Ibrahim était un guide parfait dévoué à Allah, il lui était soumis et n'était pas du nombre des polythéistes. Le verset suivant, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, et ceux qui n'ont point associé à leur Seigneur. Et on a vu que ceux qui concrétisent le tawhid ne connaissent pas le shirk. Ceux qui concrétisent, qui réalisent parfaitement le tawhid, ne savent pas ce que c'est le shirk. Dans le sens où ils ne le font pas, mais ils le connaissent. Ils en connaissent les formes. Ils l'ont étudié. Mais ils ne le connaissent pas dans leur vie. Ils ne le mettent pas en pratique. Ils en sont loin. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ils sont loin des innovations et ils sont loin des péchés. Et quand ils en commettent, ils se repentent à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Maintenant, nous allons voir le hadith qui nous est rapporté par le tabi'i, le Jalil, Hussein ibn Abdurrahman, rahimahullah ta'ala. Et donc, le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Le tabi'i Hussein ibn Abd al-Rahman est un des savants des tabi'in. Les tabi'un, ce sont ceux qui ont vécu ou vu as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum, mais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hussein ibn Abd al-Rahman a dit qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubayr, j'étais en présence de Sa'id ibn Jubayr. Sa'id ibn Jubayr, c'est un tabi'i lui aussi. Il fait partie des ulama de la sunna et du hadith. Et un jour, Sa'id ibn Jubayr est entré dans la mosquée et il a vu un homme entre l'adhan, l'appel à la prière, et l'iqama, le second qui marque le temps de la prière de l'aube. Il a vu un homme prier les deux raka'a de la sunna, puis au lieu de s'asseoir, il s'est levé et a refait deux raka'a. Et dans la sunna, on ne doit rien faire après les deux raka'a du fajr de la sunna. Sa'id ibn Jubayr lui a dit « La tusalli », ne prie pas. L'homme lui a dit, donc après avoir terminé sa prière sans prêter attention à son conseil, il lui a dit « Ayu'adhibunillahu ala salah »« Allah va-t-il me châtier parce que je prie ?» L'homme, Sa'id, lui a dit « La, non. »« Walakin yu'adhibuka » ala mukhalafati sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais il te châtie quand tu contredis la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa'id ibn Jubayr, c'est un grand savant des tabi'un. Il était en compagnie de Hussein ibn Abd al-Rahman dans une discussion. Et là, on va voir al-akhlaq allati alayha as-salaf, les comportements des pieux prédécesseurs dans l'ilm, dans la science et dans leur mise en pratique. Et combien ils sont prudents et s'arrêtent à leur savoir. Ils n'avancent pas s'ils ne savent pas. Il dit kuntu 'inda Sa'id ibn Jubayr. J'étais en présence de Sa'id. Faqal ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-bariha. Quand il a dit qui d'entre vous a vu, ils ont traduit par l'étoile filante, l'étoile qui est tombée la veille, c'est-à-dire la soirée passée, parce que al-bariha, c'est après l'asr. Pour hier, la veille, si c'est après la prière du asr, on appelle ça en arabe al-bariha. Si c'est avant, on dit ams. Ams. Donc, il parle de cette chose-là. Là, on va faire simplement traduire et après, on va voir l'explication. Qui d'entre vous a vu l'étoile filante hier ? Qultu ana, il a dit moi. Thumma qultu amma inni lam akun fi salah. Puis il a dit, quant à moi, je n'étais pas en prière. Walakinni ludird, mais j'ai été piqué. On verra que c'est par un scorpion. Elle a été piquée par un scorpion en cette soirée où il y a eu cette étoile filante. Faqala ma sana'at. Saïd lui a dit, qu'as-tu donc fait? Qultu irtaqayt. J'ai répondu, j'ai fait la ruqya. Ou, comme on va le voir, inshallah, j'ai demandé à quelqu'un qu'on me fasse la ruqya. Qala fama hamalaka ala dhalik. Saïd lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Hussein répond, qultu hadithun haddathanahu al-Sha'bi. C'est un hadith qui nous a été relaté, rapporté par l'imam al-Sha'bi. Al-Sha'bi, c'est un imam aussi du hadith. Qala wa ma haddathakum. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il vous a donc rapporté, c'est-à-dire comme récit? Qultu haddathana an Buraydah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'aynin aw huma. J'ai dit, il nous a rapporté d'après Buraydah rahimahullah, un grand salaf aussi, qu'il a dit, nul ruqya excepté pour le mauvais œil et les piqûres de bêtes venimeuses. On va le voir après, inshallah. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Saïd a dit, a certes très bien agi celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu. Il s'est contenté de son savoir. Walakin, mais il va lui rajouter un savoir supplémentaire. Haddathani ibn Abbas. Ibn Abbas nous a rapporté عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كي اجي عرضت علي الامم. Les nations m'ont été présentées, les peuples qui vers lesquels ont été envoyés les prophètes. فرأيت النبي ومعه الرهط. J'ai vu un prophète arriver accompagné de moins de 10 personnes. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. Un autre prophète avec un autre avec deux. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. J'ai vu un autre prophète venir, il n'était accompagné de personne. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. Quand une grande foule est apparue, فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. J'ai cru qu'il s'agissait de ma communauté. فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. Quand on m'a dit, voici Moussa et son peuple. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. J'ai ensuite regardé et je me suis aperçu d'une autre assemblée, une grande foule de personnes. Faqil ali hadhihi ummatuk. On m'a dit, ces gens sont ta communauté. Wa ma'ahum 70 alfa. Il y a avec eux 70 000 yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wa la 'adab. Qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Subhanallah. ثم نهض فدخل منزله. Puis il s'est levé et est allé chez lui عليه الصلاة والسلام. فخاض الناس في أولئك. Les gens se sont mis à discuter au sujet des concernés par ce hadith. Non, le hadith il continue plus tôt. نعم, c'est exactement ça, pardon. Les gens se sont mis à discuter. فقال بعضهم, certains d'entre eux ont dit, فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il se peut qu'il s'agit de ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ba'dhum, d'autres ont dit, fala'allahum alladhina wulidu fil islam fa lam yushriku billahi shay'a. Peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont pas associé à Allah quoi que ce soit. Wa dhakaru ashiya, ils ont mentionné d'autres choses, des éventualités, des probabilités. Fa kharaja alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager est sorti vers eux, sallallahu alayhi wa sallam, fa akhbaru, ils l'ont informé, fa qal, il a dit, humul ladhina la yastarqun, il s'agit de ceux qui ne demandent pas à autrui de faire la ruqya, wa la yaktawun, qui ne pratiquent pas la cautérisation, on en parlera inshallah, wa la yatatayyarun, et ne tombent pas dans le mauvais augure, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. فَقَامَ عُكَّشَةُ بْنُ مِحْصَنَ. Ce noble compagnon s'est levé et a dit أُدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِ مِنْهُمْ. Invoque Allah afin que je fasse partie de ces gens-là. قَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu en fais partie. ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرٌ. Un autre s'est levé. فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِ مِنْهُمْ. Puis a dit invoque Allah pour que je fasse partie d'eux, moi aussi. فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « عُكَّاشَ t'a devancé ». Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et il est immensément riche en fawaïd ilmiya, en points essentiels et choses importantes à retenir. Donc, il y a donc ici le bon comportement des pieux prédécesseurs, leur façon d'agir, leur façon de mettre en pratique ou de s'abstenir. Comme on va le voir, et il y a aussi d'autres choses. Husayn ibn Abd al-Rahman et Saïd ibn Jubayr font partie des tabi'un, comme on l'a dit. Quant à Saïd ibn Jubayr, Al-Sheikh Salih al-Fawzan a dit « Kana min akabir al-tabi'in ilman wa wara'an wa fiqha » Il faisait partie des plus grands tabi'i dans la science, dans sa crainte, dans la compréhension. وَهُوَ مِنْ تَلَمِيدِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. Il est un des élèves de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ الخمسين من عمره. Il a été assassiné par الحجاج ibn Yusuf, qui était un gouverneur, un tyran, et qui a mélangé des énormes péchés à des bonnes actions. C'est ça que les savants sont restés perplexes sur son cas. Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui un jour demande à quelqu'un de l'abreuver dans le désert, l'homme lui donne à boire. Après avoir bu, Al-Hajjaj lui tranche la gorge. Les gens lui disent « Pourquoi tu as fait ça ?» Il dit « J'ai voulu de lui qu'il meure sur une bonne action. » Al-Iyadu Billah. Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui passe devant un enfant avec son enseignant de Coran. Et son enseignant lui dit « Tabbat yada » Récite. L'enfant ne veut pas, il refuse. Et l'enseignant le frappe. Répète « Tabbat yada » L'enfant ne veut pas. Al-Hajjaj passe. Et il voit cette scène. Il demande à l'enseignant « Que se passe-t-il » L'enseignant lui dit « Il refuse, ô gouverneur, de répéter après moi et d'apprendre. » Al-Hajjaj lui dit « Ô enfant, dit Tabbat yada abi lahab. L'enfant a dit Tabbat yada abi lahab. Hajjaj a dit au l'enseignant lève-toi, tu n'es pas apte, va-t'en. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, le duel, quand il est annexé à un autre mot, à la base on dit yadani. Yadani, c'est un duel, c'est un mot qui désigne deux mains. En français, il n'y a que le singulier et le pluriel. À partir de deux, c'est le pluriel. En arabe, à partir de deux, c'est le duel. Et à partir de trois, c'est le pluriel. Dans la langue arabe, prenons l'exemple du terme yadani. Si on l'annexe à un autre mot, abi lahab, pour dire les deux mains de Abu Lahab, on va effacer le noun. L'enfant est un arabe qui connaît sa langue. Il ne peut pas dire yada et s'arrêter. Soit il dit yadani, ou alors il dit Yada Abi Lahab. El Hajjaj, il connaît ça. Il passe par là et il dit à l'enseignant va-t'en, tu n'es pas apte. L'histoire de El Hajjaj, il y a beaucoup de choses à dire, ce n'est pas le but ici. Simplement, il faut savoir que El Hajjaj a assassiné des salafs. Il a assassiné Saïd ibn Jubayr, wal-iyadu billah. C'était un tyran. Et quand il a été assassiné, Saïd ibn Jubayr, comme a dit le Cheikh, وبقتله أصيبت الأمة بفقد عالم من أجل علمائها. Quand Saïd a été assassiné par Al-Hajjaj, la communauté tout entière a été frappée d'un grand malheur. Car Saïd ibn Jubayr faisait partie des grands ulama dans la terre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Saïd a dit أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة. Qui d'entre vous a vu l'étoile filante la veille? Cheikh Al-Fawzan a dit Yas'alu al-jalisina 'inda. Il interroge les gens présents autour de lui. والكوكب معناه الشهاب الذي يرمى به الشياطين الذين يسترقون السمع. Et ce qui est voulu par le terme kawkab, c'est l'étoile filante. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que les étoiles ont été créées par Allah tabaraka wa ta'ala pour trois objectifs, pour trois buts. Premièrement, pour embellir le ciel. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. On a embelli le ciel de ce bas monde par des lampes. On parle ici des étoiles. Deuxièmement, pour lapider les démons qui montent, comme on va le voir dans un chapitre en détail, inshallah, qui montent écouter ce que les anges disent de ce qu'il adviendra demain. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, chaque jour, dicte ce qui va se passer. Certains anges écoutent, puis ils parlent entre eux. Il y a un chapitre pour ça, inshallah. Ils parlent entre eux. Au moment où ils parlent entre eux, il y a des djinns qui vont monter pour essayer de prendre une information. Et ces djinns-là sont chassés par les étoiles filantes. Et les étoiles filantes servent à ça, à lapider les démons qui viennent écouter ce que les anges disent. C'est pour ça que dans la suite du verset, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Et nous avons fait de ces étoiles une lapidation pour les démons. Troisième cause pour laquelle les étoiles sont créées, وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ. Et par les étoiles, ils se guident, c'est-à-dire en mer et sur terre, avec, lorsqu'ils sont en voyage. Et ça, on va le voir plus loin, inshallah. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir maintenant. Ce qui compte ici, c'est de savoir qu'on parle d'une étoile qui est tombée, ou une étoile filante. الذين قضى البارحة. Donc ça c'est comme on a vu. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala a dit: ici nous voyons l'importance que les salafs, les pieux prédécesseurs, donnent au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'étoile par laquelle Allah embellit le ciel, par laquelle Allah lapide les démons, par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous guide lorsque l'on vogue en mer ou alors on voyage et on parcourt la terre, sans le moindre doute, c'est un grand signe d'Allah. Et l'étoile filante, ou l'étoile filante, c'est un grand signe d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Saïd dit, qui d'entre vous a vu ce signe? Parce que les salaf salih, eux, ils méditent les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hussein ibn Abdurrahman a répondu, ana, moi. Lui, il a vu. Mais regardez ce qu'il va dire après. Donc, qultu ana. Lorsqu'il dit ana, Ashir Fawzan dit, ça montre qu'à ce moment-là, il ne dormait pas. Car sinon, il n'aurait pas pu voir la lune. Que va-t-il se passer chez les salaf salih, chez les pieux prédécesseurs? Il est connu que la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ils ne font pas comme nous. Ils rient, ils mangent, ils boivent, ils sont distraits. Ils sont insouciants. Non, ils prient la nuit. Surtout ces gens-là, ulama ou sunna, les imams de la sunna de cette époque. Donc, il va tout de suite se protéger de l'ostentation. Il va dire, ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. Mais je n'étais pas en prière. Ne pensez pas ça de moi. Car les pieux prédécesseurs étaient les gens les plus motivés à préserver leur intention et à ce qu'on ne pense pas d'eux ce qu'ils n'ont pas fait, contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont rien mais veulent d'eux que les gens pensent qu'ils ont tout dans la religion, que ce soit dans le niveau de science, dans le niveau de piété, dans l'adoration. La personne n'a rien mais elle veut que les autres pensent d'elle qu'elle en a alors qu'elle n'a rien. Les pieux prédécesseurs ont tout, ont énormément. Ils ne veulent pas que les gens pensent d'eux les choses qu'ils n'ont pas faites, subhanallah. Et ça c'est tarbiyatut tawhid, la peur de tomber dans le riya, dans l'ostentation. Et on va parler de ça dans le chapitre suivant, insha'allah tabaraka wa ta'ala. Il craint donc pour sa propre personne de tomber dans l'ostentation alors que c'est une chose qu'il n'a pas faite. Et même quand c'est une chose qu'ils ont faite, ils ne veulent pas qu'on la voie d'eux. Que dire alors de quelque chose qu'ils n'ont pas fait? C'est ce que le cheikh ici a dit, Hafidhahullah Ta'ala. Il dit, وَلَكِنِّي لُدِرْتْ, mais j'ai été piqué. C'est-à-dire, j'ai été piqué par un scorpion. C'est la raison pour laquelle il ne dormait pas. Certains ont dit, cela prouve le mal qu'il a ressenti, parce que ça l'a réveillé. Il a été réveillé par la piqûre du scorpion. Et au moment où il s'est levé, dérangé et très perturbé par cette piqûre de scorpion, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'étoile. Alors que nous, aujourd'hui, avec toutes les lumières, toutes les lampes, on ne peut pas. On ne peut presque pas, sauf si on s'éloigne en campagne. Mais eux, dès qu'ils levaient leur tête, ils voyaient les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est la première chose qu'il a vue. Il a été levé, perturbé par cette piqûre, et il a vu cette étoile passer. Al-Sheikh Abdelrazzaq al-Badr, dans son commentaire de ce passage, a dit que cela montre que les pieux prédécesseurs, eux, à cette heure-ci, ce qui est connu d'eux, c'est la prière. C'est la prière. Alors qu'aujourd'hui, si tu dis, j'ai vu hier telle chose, tu n'as plus besoin de dire, mais je n'étais pas en prière. Car chez les gens, c'est connu que tu n'es pas en prière. Ma'al asaf. Ma'al asaf. Alors que eux, si tu es debout à cette heure-ci, c'est sûr que tu étais en prière. C'est pour ça qu'il s'est protégé. Je n'étais pas en prière. Ne pensez pas ça de moi. Ne pensez pas de moi une piété que je n'ai pas. Subhanallah. Ma'al asaf. وَلَكِنِّي لُدِرْتْ. Donc, أَسَّبَبُ فِي كَوْنِي كُنْتُ مُسْتَيْقِظًا وَقْتَ نُزُولِ الشِّهَابِ أَنَّنِي لُدِرْتْ. La raison qui m'a poussé à être éveillé au moment où l'étoile filante est passée, c'est que j'ai été piqué. C'est-à-dire, إِصَابَةُ ذَاتِ السُّمُومِ مِنَ الْعَقَارِبِ وَنَحْوِهَا. Il a été piqué par un animal qui a un venin, comme les scorpions ou autres. Al-Sheikh Abdelrazzaq a dit, il s'agit du scorpion. Saïd lui a dit, Fama sana'at, qu'as-tu fait? Maintenant, il va voir qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a agi selon la sunna? Il est piqué, un venin a pénétré son corps, qu'est-ce qu'on doit faire dans la sunna? Qu'as-tu fait? Fama sana'at. Li'anna min adati al-maldur annahu yata'ata shay'a. Car celui min al-ilaj, celui qui est piqué, il va faire quelque chose pour se soigner. Qu'est-ce que toi tu as fait? قلت ارتقيت. Il a dit ارتقيت. Et en arabe, ارتقيت, ça veut dire je me suis fait ruqya. Mais dans la version de l'imam Muslim rahimahullah, il a dit استرقيت. Et là, ça veut dire j'ai demandé à autrui que l'on me fasse ruqya. Et le Cheikh Abdelrazzaq a dit, il est plus probable, selon le contexte de ce hadith, qu'il a demandé à quelqu'un de le faire ruqya. Car à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ. Ils sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. Cheikh Al-Fawzan a dit, يَعْنِي طَلَبْتُ مَنْ يَرْقِينِي بِالْقُرْآنِ. J'ai demandé qui peut me faire ruqya par le Coran. Ruqya, c'est la lecture du Coran sur le malade. Ruqya, c'est la récitation de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur la personne malade. Et la ruqya, la personne peut se la faire à elle-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est spécifique pour la ruqya. Tant que la personne qui fait la ruqya a la bonne aqida, la bonne croyance, elle peut faire ruqya. Sur sa propre personne et même sur autrui. La ruqya est efficace pour la maladie, elle est efficace pour le mauvais œil, elle est efficace même pour les maladies connues, les maladies physiques, et elle est efficace pour le cœur. Allah Azza wa Jal a fait du Coran une guérison, comme il dit dans le verset, subhanahu wa ta'ala, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءً. Dit, il est pour ceux qui ont eu la foi, c'est-à-dire le Coran, une guidée et une guérison. et ne prêtez pas attention à ceux qui ont eu le culot, l'audace de dire que le Coran n'est pas une guérison et que celui qui dit ça n'a rien compris. Malheureusement, comme on le retrouve chez certains, chez les frères musulmans, qui disent que le Coran n'est pas une guérison. Wal'iyadu billah, le dénommé Hassan Iqiyusan, il dit, je cite son terme, ce sont des foutaises. A'udhu billah minash shaitan ar-rajim. Allah a dit dans le Coran que sa parole est une guérison. Et toi, tu oses prononcer cette parole. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, la maladie et le remède, dans le début du livre, cite un certain nombre de textes pour montrer la preuve que le Coran est une guérison. Je t'invite à lire ce livre que tu n'as peut-être jamais lu, malheureusement. Ou alors peut-être que tu le lis sans le comprendre, comme tu le fais avec le Coran d'ailleurs. Mal-Asaf. Le Coran est une guérison. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. « وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَرًا » Et il ne fait que accroître la perte pour les injustes. Ils sont de plus en plus perdus. Subhanallah. Le Coran est une guérison pour les croyants, et pour les injustes, ça les égare, parce qu'ils n'ont pas su en tirer profit. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans l'autre verset, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا. Il guide par celui-ci beaucoup, et il égare par celui-ci beaucoup, par le Coran. Subhanahu, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran est une guérison pour faire al-ruqya. قال فما حملك على هذا على ذلك سعيد a dit qu'est-ce qui t'a poussé à faire ruqya ou alors à demander à autrui qu'on te fasse ruqya. Cheikh Fawzan a dit هذا فيه ان السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون. On voit l'éducation des pieux prédécesseurs qui recherchaient les preuves dans leurs paroles et dans leurs actes. Qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? On ne dit pas j'ai essayé, ça marche. Telle personne m'a dit qu'il paraît qu'il est bon de faire ceci et cela. Ou alors j'ai vu telle personne. Non. Quelle est la preuve? Qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? On voit qu'on doit demander à Dalil dans l'effort d'interprétation. Un alim qui fait un effort d'interprétation. On cherche à voir. Quelle est la preuve qui nous amène à faire cette parole ou à faire cette action ou à prononcer pardon cette parole? فمن قال بمسألة من المسائل أو فعل فعلا فإنه يطلب منه الدليل على جوازه. Celui qui s'exprime dans une mas'ala, dans une question religieuse ou fait un acte, on lui demande quelle est la preuve de la permission, de l'autorisation de cet acte. أو على مشروعيته من الكتاب والسنة. Quelle est la preuve que cet acte est légiféré dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans la sunna? Il y a aussi adabu salaf, le comportement des pieux prédécesseurs rahimahumullah. أنهم لا يقدمون على شيء إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا في أمور العلاج. Écoutez bien, les pieux prédécesseurs s'attachait au dalil, il s'attachait à la preuve lorsqu'il s'agissait d'agir dans la religion. Il s'attachait à la preuve, particulièrement quand il s'agissait de remède. Pourquoi? Parce que dans le domaine du remède, d'aller se soigner, il y a énormément d'innovations. Il y a énormément de shirk, akbar, asrar. Il y a énormément de polythéisme au nom du remède. Au nom du fait d'aller se soigner et de chercher la guérison. Alors que les pieux prédécesseurs, eux, s'appuyaient sur les preuves pour se soigner dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. لِأَنَّ النُّفُوسَ تَتَشَبَّثُ بِأَيِّ شَيْءٍ لِطَلَبِ الشِّفَاءِ. car les gens vont vite, sont enclins à s'accrocher rapidement et à s'attacher rapidement à toute chose à la recherche de la guérison. C'est pour cela que l'on voit dans certaines familles l'enfant qui est touché d'une maladie, peut-être d'un mauvais œil, ou alors d'une maladie physique et toute autre chose dans ce domaine. Quand les parents ne trouvent pas comment le soigner, ni médicaments, ni médecins, qu'est-ce qu'ils font? Dans beaucoup de familles, ils se dirigent vers As-Sahir, ils se dirigent vers le sorcier, wal-iyadu billah. Ils l'appellent le marabout, ils l'appellent le friq, ils l'appellent le talif, ils l'appellent l'imam, ils l'appellent le alim. Ils lui donnent des faux noms, alors qu'en vérité c'est un sahir, c'est un sorcier, comme on va le voir dans le chapitre de ce livre réservé à ce sujet. Et qu'est-ce qu'ils font à la recherche de la guérison? Ils font du shirk, wal-iyadu billah. Hatta walau kana ghayra mashru'. فسعيد بن جبير رحمه الله خشي من هذا الأمر. سعيد a eu peur de ça. Les pieux prédécesseurs ont peur de ces choses-là. فهذا فيه أن العلاج لا يكون إلا بما دل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il y a donc la preuve que le remède, la façon de se soigner, on ne doit la faire qu'avec ce qui est prouvé par le Coran et la Sunna. Plus tard, Inch'Allah, on va développer ça. Comment se soigner, les causes, on va parler des médicaments, de toutes ces choses-là. Car prendre un médicament n'est pas du shirk. Et ça, on va en parler, Inch'Allah, vous comprendrez avec précision au moment venu, Inch'Allah. Quant à ceux qui vont voir les sorciers, les charlatans, agir ainsi, c'est du shirk. Comme on va le détailler plus loin, Inch'Allah. Donc, c'est pour ça que Saïd a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Il répondit, Hussein a répondu, un hadith qui m'a été rapporté par l'imam al-Sha'bi, rahimahullahu ta'ala. Hada dalili ala ma fa'al. C'est-à-dire, c'est ma preuve. C'est la preuve que j'ai qui m'a poussé à agir ainsi. الشعبي هو عامر بن شراحيل الإمام الجليل من أئمة التابعين قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين Qu'est-ce qu'il vous a dit? Hussein a dit, il m'a rapporté d'après بريدة ابن الحصيب الأسلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التابعي الذي هو الشعبي يروي عن هذا الصحابي. Al-Sha'bi a rapporté d'après le compagnon Buraïda radiyallahu ta'ala an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ruqyata illa min aynin aw huma. Nul ruqya excepté pour le mauvais œil et ce qu'on appelle en arabe huma. Huma, c'est la piqûre de l'insecte venimeux, comme on va le voir inshallah. La ruqya, qu'est-ce que cela veut dire? Nul ruqya, excepté pour le mauvais œil et pour la piqûre d'insectes venimeux. Est-ce que cela veut dire qu'on a le droit de faire ruqya que pour le mauvais œil et les piqûres d'insectes venimeux, ou alors il est permis de faire ruqya pour autre chose? La réponse, à la Cheikh al-Fawzan, la ruqya ta'ya'ni anfa' wa ashfa' illa min ayn, c'est-à-dire nul ruqya plus profitable, plus utile pour la guérison que celle qui est faite pour le mauvais œil et la piqûre du scorpion. Ainsi, on peut faire ruqya pour autre chose, mais la ruqya la plus utile, c'est celle-ci. Ay isabat al-ayn bi sabab al-hasad alladhi yakunu fi ba'd an-nas. Donc il s'agit du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est ce qui découle de la jalousie qui habite le cœur de la personne qui jalouse quelqu'un qui jouit d'un bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il va l'atteindre d'un mauvais œil. Wal'iyadu billah. Li'anna nazarahu masmoum. Son regard est empoisonné. Le regard de celui qui est jaloux est empoisonné. Al-Sheikh a dit, wa hadha min aja'ibi khalqillahi subhanahu wa ta'ala wa qudratih. Et ceci montre l'étonnante créature d'Allah, Azza wa Jal. Quelqu'un qui te regarde avec jalousie, peut, par la permission d'Allah, te toucher d'un mal. C'est Allah Azza wa Jal qui le fait, subhanahu wa ta'ala, mais c'est la cause. Ça montre l'étonnante création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le mauvais œil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-aynu haq, le mauvais œil est une vérité. وَلَوْ أَنَّ شَيْئًا سَبَقَ الْقَدَرْ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنِ. Et s'il y avait quelque chose qui pouvait devancer le destin, ce qu'Allah a décrété, ça aurait été l'œil. C'est-à-dire, c'est tellement fort et réel que ça a ce degré d'effet. Donc, il y a plein de hadiths dans le mauvais œil. Il y a le remède. L'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce compagnon qui a enlevé son vêtement, l'homme l'a regardé et il a été étonné de son corps. Immédiatement, il a été touché dans son corps. On l'a présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a montré ce qu'il faut faire. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الذي عانه أن يغتسل. Il a demandé d'abord aux compagnons dans l'histoire, accusez-vous quelqu'un, selon vous, quelqu'un lui a fait cette chose? Les compagnons ont dit oui, un tel. Le prophète l'a convoqué, sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand il l'a ramené, il lui a ordonné de faire al-irtisal, le bain. ثم أخذت غسالته وصبت على المصاب. Puis il a pris l'eau qui a coulé de son bain. Donc il s'est nettoyé. L'eau qui a coulé, qui restait dans le récipient, il a pris cette eau-là et il l'a déversée sur la personne touchée par le mauvais œil. فَشُوفِيَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Il a été guéri par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un des meilleurs remèdes pour le mauvais œil. Et les savants ont dit donc, celui à qui on demande, est-ce que tu m'as regardé? Est-ce que, il ne doit pas mal le prendre. Il ne doit pas dire, m'accuses-tu d'être jaloux de toi? M'accuses-tu de t'avoir touché d'un mauvais œil? Tu n'as pas honte? C'est un manque de respect. Il ne doit pas agir ainsi. Le compagnon à qui on l'a demandé a dit oui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a demandé de prendre de cette eau. Il a pris cette eau, il a fait ce qu'il avait à faire et Allah l'a guéri. Subhanahu wa ta'ala. À l'époque de Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, il y avait un élève qui était connu et qui récitait tous les hadiths dans Sahih al-Bukhari. Et il s'est levé devant des milliers de personnes. Et un jour, il s'est levé et il a été comme paralysé. Il n'arrivait plus à parler. Sheikh Muqbil rahimahullah a tout de suite compris qu'il avait été touché d'un mauvais œil. Et il a ordonné à quelques personnes d'aller se laver avec de l'eau et de déverser cette eau sur la personne, et la personne a été guérie bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hadha huwa al-amal bis-sunnah. C'est la mise en pratique de la sunna chez les ulama, chez les savants. Donc voici le remède de l'œil. Il y a comme autre remède pour le mauvais œil, ar-ruqya, la lecture du Coran avec al-fatiha, al-mu'awwidhatan, سورة الإخلاص الفلق الناس وقوله أو حمى et quant à sa parole nul رقية sauf pour le mauvais œil ou حمى. حمى c'est la piqûre de l'insecte venimeux, le serpent, le scorpion ou ce qui est venimeux. Quand tu te fais piquer par un animal de cette catégorie, tu peux faire رقية. Et la ruqya, inshallah, tabaraka wa ta'ala, sera efficace. قال العلماء هذا من باب التأكيد لا من باب الحصر. Les savants ont dit qu'ici, ce qui a été voulu, c'est appuyer, confirmer l'effet positif de la ruqya dans le mauvais œil et les piqûres d'insectes venimeux. Pas de restreindre la ruqya à ces deux choses-là. فالرقية تنفع من غير العين والحمى أيضا ومن سائر الأمراض. La ruqya est utile, est bénéfique, elle a des effets positifs pour toute autre maladie. Tu peux faire ruqya pour la fièvre, pour le cancer, qu'Allah nous en préserve tous. Tu peux faire ruqya pour n'importe quelle maladie. ولكن أنفع ما يشفى بالرقية هذان المرضان. Mais ce qui est le plus utile comme ruqya, ce sont ces deux maladies, le mauvais œil et la piqûre de l'insecte venimeux. طيب. Donc Saïd a dit قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. A très bien agi celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu. Il ne peut pas faire plus. Il n'a pas plus de connaissances que cela. Il a entendu un hadith, il le met en application. Et il a demandé à quelqu'un de lui faire ruqya. Mais là, Saïd, rahimahullah, va apporter à Al-Husayn, rahimahullah, une science supplémentaire. Un savoir. Il lui dit, donc d'abord, afna alayhi wa sawwabahu ala hadha. Il lui a fait ses éloges et a jugé son acte bon. Il a eu un bel agissement. Il s'est arrêté à son savoir et à sa connaissance. Mais il va lui dire walakin haddathana ibn Abbas. Mais Ibn Abbas nous a dit. Et là, il va lui citer un hadith. Cheikh Abd al-Razzaq a dit est-ce que quand il va lui dire mais Ibn Abbas nous a dit, il va le corriger dans le sens où tu t'es trompé, tu n'aurais pas dû faire ça parce que Abdullah ibn Abbas nous a dit? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Car il s'est arrêté à son savoir. Il s'est arrêté à sa connaissance. Il ne va pas le blâmer pour quelque chose qu'il ne sait pas. Mais il va lui faire connaître quelque chose qu'il ne savait pas. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما. Abdullah ibn Abbas nous a dit, donc c'est Saïd ibn Jubayr qui a cette autre preuve. Donc Hussein rapporte d'après Sha'bi un hadith. Saïd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Ibn Abbas dans un autre hadith. Donc il y a Saïd avec Hussein ibn Abd al-Rahman. Hussein a eu un agissement. Il s'est basé sur la parole que lui a rapporté Sha'bi d'après le compagnon Buraïda. Saïd lui dit tu as bien agi, mais Ibn Abbas moi m'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ça on voit adab al-salaf fil ilm, comportement des peu prédécesseurs dans la science. Chacun amène de ce qu'il a avec respect, tant qu'il s'agit de suivre la sunna, de mettre en application les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, il se respecte et il profite de la science. Et le Cheikh Abd al-Razzaq a un écrit qui s'intitule Majlisun Mati' min Majalisis Salaf, une excellente assise parmi les assises des pieux prédécesseurs. Et dans cet écrit il a évoqué ces choses-là. Je vous conseille de la lire, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Donc, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, c'est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le cousin paternel, le plus grand savant des sahaba, fi tafsir al-Qur'an, dans le commentaire, dans l'explication du Qur'an, une montagne de science, rahimahullah ta'ala. Le temps ne nous permet pas de s'étaler sur le shaykh, l'imam, Al-Jabal Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc il lui dit tu as bien agi, mais il y a quelque chose de meilleur encore. Quelle est cette chose? Quel est ce hadith? Qala sallallahu alayhi wa sallam uridat alayya al-umam. Les nations m'ont été présentées, c'est-à-dire les communautés vers lesquelles ont été envoyés les prophètes, les messagers. Elles ont été présentées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un miracle, comme l'a dit le cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah, qu'on lui a montré les communautés. Al-Cheikh Al-Fawzan dit « Kana hadha laylat al-Isra'i wal-Mi'raj » Cette scène s'est produite la nuit du voyage nocturne. D'autres savants disent que cela a été vu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Il a rêvé et en songe, il a vu cette scène qui aura lieu le jour dernier. Les prophètes qui viendront, alayhi salatu wassalam, avec leurs suiveurs. Quoi qu'il en soit, l'information, nous, c'est ce qui nous concerne ici. Quelle est l'information du hadith ? فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّعْدُ. J'ai vu un prophète venir accompagné de ce que l'on appelle en arabe الرَّعْدُ. Et الرَّعْدُ الْجَمَعَ مِنَ النَّاسِ دُونَ عَشْرَةً. C'est un groupe de personnes inférieures à 10. C'est-à-dire qu'un homme élu par Allah, un prophète envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala, va se présenter le jour dernier, après avoir prêché tant d'années, après avoir invité les gens au tawhid, à sa sunna à lui, à la prescription d'Allah, à la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a rencontré des épreuves, des détracteurs, des ennemis. Il vient le jour dernier, il a moins de 10 personnes derrière lui. Allahu Akbar. Subhanallah. وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. Un prophète venir avec un homme et deux hommes. قال الفوزان حفظه الله هذا أقل. C'est encore moins ici. تَبِعَهُ مِنْ قَوْمِهِ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. Un prophète qui va venir et qui a été suivi que par un homme ou alors par deux hommes. وَالْبَقِيَّةُ أَبَوْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et le reste des gens de cette époque, ils ont tous refusé de croire en Allah et en ce prophète de cette époque. Subhanallah. Et il y a pire encore. وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Et un prophète qui vient, personne n'est avec lui. Subhanallah. Il y a un prophète qui est élu par Allah. C'est le meilleur des hommes de son époque. Allah l'a guidé. Il a le cœur le plus pur. Il est envoyé avec la science, la sagesse, l'a guidé, le souci de guider les gens. La science, il répond à toutes les questions. Il invite les gens. Et qu'est-ce qu'il trouve en face de lui? Il ne voit que des ennemis. Il ne voit que des détracteurs. Il ne voit que des négateurs. Il se présente à Allah après avoir fourni tous ses efforts. Épuisé, il arrive devant Allah. Il n'y a personne avec lui. Qu'est-ce qu'on prend ici comme règle dans le manhaj des salafis, dans la méthodologie de la salafia, du Coran et de la sunna et des pieux prédécesseurs? On prend une règle qui est la suivante. لَيْسَتِ الْعِبْرَةُ بِالْكَفْرَةُ وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِقَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ. La quantité n'est pas un gage de vérité, mais seul est gage de vérité Allah a dit et le messager a dit. Cette règle-là, tu dois la vivre, ô toi le musulman. Tu dois la comprendre, tu dois la mettre en pratique. Tu ne dois pas dire, quand quelqu'un te corrige d'une éventuelle erreur que tu serais amené à faire, tu ne dois pas dire, oui mais la plupart des gens font. J'ai vu tant de personnes le faire. J'ai entendu tant de personnes dire. Parce que dans l'islam, dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la quantité n'est pas un gage de vérité. La quantité ne montre pas que ce que tu vas faire est vrai parce que beaucoup de gens l'ont fait. Qu'est-ce qui est preuve que ce que tu fais est bon? Allah a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as compris ça, par Allah, tu vas te débarrasser du chiffre, tu vas te débarrasser de la bid'a, tu vas même te débarrasser de la désobéissance à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bien que l'homme est sujet à l'imperfection, à l'erreur et toutes ces choses, mais il va se réformer. Il va, inshallah ta'ala, se corriger. C'est pour ça que le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, dans ce passage a dit, je suis convaincu qu'aucun d'entre vous me contredira si je dis que ce prophète est venu avec la guidée. Personne ne va dire le prophète qui vient seul le jour dernier n'est pas venu avec la guidée, n'est-ce pas? Ça montre que ce qui est voulu, c'est d'être dans la guidée, et même dans la façon de prêcher, même dans la façon d'appeler Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne changes pas la façon de prêcher, tu ne prêches pas comme bon te semble, tu ne te bases pas sur ce que les gens vont accepter de toi ou non pour adapter à eux, en te dissociant du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce prophète, c'est la preuve qu'il s'est attaché au chemin d'Allah. Car si il avait adapté aux gens en se détachant des ordres d'Allah, peut-être que les gens l'auraient suivi. Mais pourquoi ils ne l'ont pas suivi? Parce qu'il s'est maintenu cramponné à ce droit chemin vers lequel Allah l'a guidé. Et pour ça, Allah a dit dans le Coran, وَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتْ. Et ainsi, invite à Allah, tiens-toi droit comme on te l'a ordonné, pas comme bon te semble. Allah t'a légiféré, il t'a prescrit les règles dans le prêche, dans la da'wa. Tu ne changes rien à cela. Tu invites les gens au tawhid, tu invites les gens à la sunna. Et c'est comme ça que les pieux prédécesseurs ont cheminé vers Allah. Subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça l'islam. C'est comme ça que le musulman, tout simplement, doit être. Donc, Ash-Shaykh al-Fawzan a dit « Fihi dalilun ala annahu la yuhtaju bil kathra ». Il y a ici la preuve que la quantité n'est pas une preuve. Ce n'est pas un gage de vérité. Plus encore, chers frères, dans le Coran, je vous prends en défi d'ouvrir le Coran de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Lisez-le. Et essayez de trouver un seul verset, je dis bien un seul verset, ô vous les musulmans, où Allah tabaraka wa ta'ala parle de la majorité des gens sans faire leur blâme. À chaque fois qu'Allah dans le Coran dit aktharun nas, la plupart des gens, ce n'est que pour les blâmer. Écoutez un peu quelques versets. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ma aktharun nas wa law harasta bimu'minin. Et la majorité des gens, même si tu es motivé pour, ils ne seront pas croyants. Allah azza wa jalla a aussi dit laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. La parole s'est réalisée sur la majorité d'entre eux, ils ne seront donc pas croyants. Inna Allaha ladu fadlin 'ala an-nas walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Allah donne de grandes grâces aux gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Inna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha. Inna as-sa'ata atiyatun, l'heure va arriver, walakinna akthara an-nasi la yu'minun. Mais la plupart des gens ne croient pas. Il dit aussi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Plus encore, il dit aussi wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la majorité des gens de la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Subhanallah. À chaque fois qu'Allah parle de la majorité, il ne fait que les blâmer. Arrêtez, vous les musulmans qui écoutez ces quelques paroles, de vous attacher à la majorité. Revenez au livre, revenez au Coran, revenez à la sunna. Pesez vos actes et vos paroles sur la balance du Coran et de la sunna. Et ne comprenez pas ces deux sources à votre manière. Attachez-vous à la compréhension des premiers de l'islam qui ont vécu l'islam originel, qui n'a pas été dénaturé, qui n'a pas été altéré, qui n'a pas été déformé. Ça, c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si vous comprenez ça, ô musulmans, vous serez loin de toute forme d'innovation, de tout groupe égaré, de toute secte égarée. Et ô combien elles sont nombreuses, malheureusement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idh rufi'a li sawadun azim » quand on m'a soudainement présenté une immense foule de gens. As-sawad, as-sawad huwa al-ashbah al-ba'ida. Donc c'est la foule que l'on voit au loin, une grande foule de personnes. Sawadun azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fadhanantu annahum ummati » J'ai pensé qu'il s'agissait de ma communauté. De qui il s'agissait? Faqil ali hada Musa wa qawmo. Et on m'a dit, il s'agit de Moussa et son peuple. Et il y a ici le mérite de Moussa alayhi salam. Et le grand nombre de suiveurs qu'il a eu, na'am, et qui viendront derrière lui le jour dernier, quand ils répondront à Allah subhanahu wa ta'ala. Fanavartu fa'ida sawadun azim. Le prophète s'est mis à regarder sallallahu alayhi wa sallam et il a vu une autre grande foule. Les savants ont dit a'zam, une foule plus grande encore que cette foule, cette première foule qu'il vient de voir. Parce que dans une riwaya, dans une variante du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Walakin anzur ila al-ufuq ». Cette riwaya, cette version est rapportée par Muslim. Regarde à l'horizon. Et il a vu une immense foule qui comblait, qui remplissait l'horizon. Subhanallah. Et c'est là qu'on lui a dit هذه أمتك voici ta communauté ومعهم سبعون ألفا il y a avec eux 70 000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب سبحان الله qui entreront au paradis sans jugement, sans châtiment. Pourquoi est-ce qu'ils entreront au paradis sans jugement et sans châtiment, ces gens-là? Nous sommes dans le bab, dans le chapitre quiconque concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement. Donc forcément, sans jugement veut dire sans châtiment. Nous avons expliqué que concrétiser le tawhid, c'est s'éloigner du shirk akbar et asra, s'éloigner de l'innovation, s'éloigner des péchés ou s'en repentir. Donc, celui qui a agi ainsi n'a pas à être jugé. Pourquoi? Parce que le jugement concerne celui qui va rendre des comptes pour une obligation qu'il a délaissée ou un péché qu'il a commis. Mais ceux qui ont concrétisé le tawhid, ont mis en pratique les obligations et ont délaissé les péchés ou s'en sont repentis, c'est pour cela qu'ils auront ce grand mérite, qu'ils entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Donc, وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا, c'est-à-dire 70 000 personnes de la communauté qui auront cet énorme privilège d'entrer au paradis, la demeure dernière. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah. Ya dhal jalali wal ikram. Qui auront cet immense privilège d'entrer au paradis sans être jugés, sans être châtiés. Ils ne rendront pas de compte. On leur posera pas de questions. Pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as dit? Pourquoi tu as été là-bas? Pourquoi tu n'y as pas été? Pourquoi tu ne t'es pas acquitté de ton devoir? Lui, l'individu concerné dans le hadith, il ne connaîtra pas ça. Il viendra le jour dernier et il entrera au paradis sans être jugé et sans être châtié. Subhanallah. Et ça, c'est la grâce qu'Allah offre à celui qui concrétise le tawhid. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لتحقيق التوحيد اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لتحقيق التوحيد اللهم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لتحقيق التوحيد اللهم وفقنا لتحقيق التوحيد يا ذا الجلال والإكرام. Donc voici la situation de ces gens. الشيخ الفوزان a dit وفي رواية ومنهم سبعون ألفا السبعون الألف هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا فضل عظيم. C'est une immense grâce et un grand privilège. والبقية من الخلائق تحاسب. Et les autres personnes vont être jugées. منهم من يحاسب حسابا يسيرا. Il y a parmi eux certains qui auront un jugement simple, un jugement facilité. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنَاقَشْ الْحِسَابِ. Et d'autres qui auront beaucoup à répondre dans leur hisab. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْكُفَّارِ هَلْ يُحَاسَبُونَ أَوْ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِدُونِ حِسَابٍ. Les savants ont divergé sur les mécréants. Est-ce qu'ils vont être jugés ou alors entreront-ils directement au feu sans être jugés? والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في العقيدة الواسطية كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنهم يقررون بأعمالهم فقط ولا يحاسبون محاسبة من يوازن بين حسناته وسيئاته. C'est que les mécréants, eux, on va leur demander de reconnaître leurs fautes. Ils reconnaîtront toutes leurs fautes, mais ils ne seront pas jugés comme le jugement du musulman à qui on va poser, duquel on va poser ses actions, ses bonnes actions sur un plateau et les péchés sur l'autre plateau. Les annahum la hasanat lahum, car les kuffars n'ont pas de hasanat, donc il n'y aura pas pour eux cette pesée. Walakinnahum yuqarraruna bi kufrihim وأعمالهم الكفرية, mais on les amènera à reconnaître leur mécréance et leurs actes de mécréance. ثم يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. Puis on les ordonnera, on ordonnera à ce qu'ils soient introduits dans le feu. والعياذ بالله. وإن كان لهم حسنات في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا. Et si dans ce bas monde ils ont des bonnes actions, ils seront rétribués dans ce bas monde. Allah est juste. Kuffar, quand ils font des bonnes choses, est-ce qu'ils le font pour le Jannah, pour le paradis? Est-ce qu'ils le font pour At-Tawhid, pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Non. Ils le font pour qu'on fasse leurs éloges. Ils le font pour être aimés. Ils le font pour avoir telle et telle chose. Allah va les rétribuer. Il va leur donner exactement ce qu'ils ont voulu. Mais ils ne peuvent pas avoir le paradis car ils n'ont pas œuvré pour le paradis. فَإِنَ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا. Allah n'opprime personne. أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ ثَوَابٌ وَلَا حَسَنَاتٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Quant à l'au-delà, ils n'y auront aucune récompense, aucune bonne action. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Donc voici le devenir de ces gens-là. Puis le prophète s'est levé sallallahu alayhi wa sallam, après avoir donné cette immense information qui est incommensurable. Il s'est levé et a regagné sa maison. Les compagnons n'ont pas eu une oreille insouciante et indifférente. Ils se sont dit, 70 000 personnes qui ne vont pas être châtiées, qui ne vont pas être jugées. Et ils se sont mis à discuter. Et encore une fois, on voit Salaf al-Salih, ils recherchent la science. Ils ont cherché les éventualités. Les gens se sont mis à discuter au sujet des concernés par ce hadith. Les sahaba radiallahu anhum, ils sont préoccupés par masail al-akhirah, par les sujets relatifs à la demeure dernière, à la foi, à l'iman, à l'entrée au paradis, à la préservation du feu de l'enfer. C'est dans ça qu'ils passent leur temps. Radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Ils passent le temps à chercher qu'est-ce qui fait entrer au paradis, qui sont les gens qui entrent au paradis, pourquoi est-ce qu'ils ont eu l'entrée au paradis. Aujourd'hui, on vit une époque dans la dunya où on cherche à savoir qui sont les gens dans cette dunya qui ont excellé dans tel et tel domaine, qui sont les gens, comment ils ont réussi à être riches, à réussir. Et c'est très rare que tu vois dans une assise des gens cherchaient à savoir qui sont les gens du paradis avec des dalils, pas comme le font certains groupes qui inventent des choses qui n'existent pas. Et c'est très rare que tu vois des gens s'asseoir, chercher la science du Coran et de la Sunna et chercher à savoir comment entrer au paradis, qui sont les gens qui ont mérité le paradis, quelles en sont les preuves, comment les prendre pour exemple. C'est ainsi qu'étaient les compagnons radiallahu anhum. Certains d'entre eux ont dit: peut-être qu'ils sont ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas meilleur dans la communauté que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Fa walladhi nafsi biyadih, car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, si l'un d'entre vous venait à dépenser en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or. Il donne l'équivalent de cette montagne qui s'étend sur des centaines de mètres et qui s'élève sur des centaines de mètres. Il dépense tout cela en or. Ma balara mudda ahadihim wala nasifa. Il ne parviendrait même pas à atteindre ce que donnerait l'un d'entre eux parmi les compagnons dans deux poignées de main ou alors dans une seule. Un compagnon qui vient et donne en sadaqa une main avec un peu de farine, et toi tu viens avec la montagne de Uhud en or, tu ne lui arrives même pas à la cheville, comme on dit, parce qu'il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit peut-être qu'il s'agit des compagnons qui ont ce mérite. D'autres ont dit: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Peut-être qu'ils sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont rien associé à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, dans les compagnons, il y a ceux qui sont nés polythéistes et qui se sont repentis pour adhérer à l'islam. Et il y en a qui sont nés avec le prophète à côté d'eux, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont connu que le tawhid. Ils ont dit peut-être que ce sont eux. Et là, on voit que, comme a dit Cheikh Abdelrazzar, il y a la permission, quand on recherche une réponse, de donner des éventualités, sans affirmer que telle éventualité ou telle autre est la bonne et toutes les autres ne le sont pas. C'est comme ça que les savants agissent. Quand il y a matière à rechercher la bonne réponse à la question, le sujet juste, l'avis juste, ils donnent des éventualités. C'est pour ça que les savants, on les entend dire « La'allahu kada », peut-être que c'est ça. Ils disent « Al-aqrabu ila sawab huwa kada », l'avis le plus proche de la vérité, c'est peut-être tel avis, en respectant l'autre éventualité, tant qu'elle ne sort pas des règles du Coran et de la Sunna. Tayyib. Ils ont dit peut-être que ce sont ceux qui n'ont rien associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Ash-Sheikh Al-Fawzan a dit يَدُلُّ عَلَى خَطَرِ الشِّرْكِ. Cela nous montre la gravité du polythéisme. Car la personne qui est née dans l'islam n'est pas... Le fait que cette personne soit née dans l'islam, ce n'est pas suffisant. Il faut être préservé du shirk. Regardez. وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ. Ils sont nés dans l'islam et après وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Et ils n'ont pas associé à Allah quoi que ce soit. Donc ils ont maintenu ce droit chemin. Donc être dans l'islam n'est pas suffisant, mais il faut ath-thabat fi l'islam. Il faut être ferme dans l'islam. Et tu ne pourras être protégé du shirk que si tu apprends ce qu'est le shirk, ce qu'est le polythéisme. Malheureusement, beaucoup de gens ne l'apprennent pas. Et pour cela, Hudayfa radiyallahu anhu disait: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. Les gens autrefois interrogeaient le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم sur le bien. وكنت أسأله عن الشر. Quant à moi, je l'interrogeais sur le mal. Pourquoi? مخافة أن يدركني. De peur qu'il ne me touche. Car si tu veux être protégé du mal, tu apprends ce qu'est le mal. Et ça, on va le voir dans le prochain chapitre. C'est pour ça qu'on ne va pas s'étaler ici, inshallah ta'ala. Le prophète est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont informé de cette discussion entre eux. C'est là qu'il leur a dit, « Humul ladina la yastarhoun. » Ils sont ceux qui ne demandent pas à autrui de faire ruqya. Lorsque le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, cite ces gens-là, est-ce que cela veut dire qu'il est interdit de demander à autrui de faire ruqya? La réponse est non. Il est permis de demander à quelqu'un de faire ruqya à condition que celui qui demande soit convaincu que c'est une cause et que c'est Allah le guérisseur, subhanahu wa ta'ala, et pas celui qui fait ruqya. Deuxièmement, raqi, celui qui fait ruqya doit avoir une bonne aqida, une bonne croyance. Tu ne vas pas chez un mushrik, un polythéiste pour faire ruqya. Tu ne vas pas chez un sahib pour faire ruqya. Tu ne vas pas chez un mubtadi, un innovateur, pour demander ruqya. Il faut quelqu'un qui ait une bonne croyance. Mais il est meilleur de ne pas la demander à autrui. Il est meilleur de ne pas la demander. C'est un degré élevé. Mais si la personne demande pour une quelconque raison, elle est amenée, elle est poussée à... Elle n'est pas dans le péché. Elle n'est pas dans le péché. Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il est même possible, dans l'explication de ce hadith, qu'il est même possible pour la personne qui a demandé qu'elle fasse quand même partie de ces gens qui entrent au paradis sans jugement et sans châtiment. Quoi qu'il en soit, ce sont des avis de nos savants, rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. En tout cas, ici, ce qui est voulu, c'est celui qui ne demande pas à autre la ruqya. Pourquoi? Cheikh Abdelrazzaq a dit parce que cela peut te pousser à t'attacher à la personne. Et ça, on l'a vu, et moi, je l'ai vu. La personne demande ruqya à quelqu'un. Ce quelqu'un lui fait ruqya. La personne qui est malade se dit qu'il faut absolument qu'il revienne. Il faut absolument que ce soit lui qui me fasse ruqya. Et il l'appelle, il le demande, il le recherche partout, en pensant que Fal'iyadu billah, le remède, petit à petit, le cœur commence à pencher vers la personne, et la personne, malade risque de s'attacher trop à la personne qui fait ruqya. Et dans l'islam, on t'apprend que quand tu concrétises le tawhid, tu ne t'attaches pas à quelqu'un, si bien que tu ne demandes pas à quelqu'un quelque chose qui est permis. C'est pour ça que certains savants ont expliqué tahqiq al-tawhid, la concrétisation du tawhid, comme étant tarku ma la ba'sa bihi khashyata ma bihi ba's. Délaisser ce dans quoi il n'y a pas de mal, de peur ou par peur de ce dans quoi il y a du mal. Il n'y a pas de mal à demander en soi tout de suite comme ça, mais par peur de s'attacher après à la personne, c'est mieux de se délaisser, c'est mieux de se détacher. Wala yaktaoun, et qu'il ne pratique pas la cautérisation. Qu'est-ce que c'est la cautérisation? De se soigner par le feu, et c'est encore pratiqué. On prend le métal, on le met dans le feu, on le fait chauffer jusqu'à ce que le métal devienne rouge, et puis on presse, ou on compresse sur l'épaule ou sur le dos de la personne. Et ça c'est un sabab de shifa, une cause de guérison qui est efficace, mais qui est détestable. Pourquoi? Parce que ça abîme le corps. Comme a dit Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah ta'ala, ça abîme le corps. Quelqu'un a dit à Cheikh al-Fawzan, « Ma ma'na al-kay ?» Qu'est-ce que la cautérisation? Cheikh Salah al-Fawzan a dit, « Tu ne sais pas ce qu'est le kay ? Demande à quelqu'un de te le faire et tu vas comprendre ce que c'est. Voyez. Wala yatatayyarun. C'est un peu pour vous reposer. On a fini. Wala yatatayyarun. Et qui ne pratique pas le mauvais augure. Le mauvais augure, il y a un chapitre qui va venir sur ça, inshallah ta'ala. Mais simplement, c'est d'être tout le temps pessimiste. J'ai vu telle chose, il va m'arriver telle chose. Je suis passé en dessous de tel endroit, j'ai vu telle chose, je risque, c'est signe qu'il va m'arriver telle chose. Ça, on va le développer dans son chapitre, inshallah ta'ala. Ukasha s'est levé et a dit, invoque Allah afin que j'en fasse partie. Aïe, barakallahu fi. Wa ala rabbihim yatawakkaloun. En plus, c'est très important. Ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ils ne demandent pas ruqya, ils ne demandent pas la cautérisation, ils ne croient pas en la mauvaise augure, c'est parce qu'ils placent leur confiance en leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Leur cœur est dirigé vers Allah seul et sans associé, subhanahu wa ta'ala. Alors ils ne demandent rien à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ukasha s'est levé, invoque Allah pour que je fasse partie de ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, anta minhum. Et ici on voit que Ukasha fait partie des gens du paradis, fait partie de ceux qui entreront sans jugement et sans châtiment. Et dans la aqida de Ahl Sunnah, on affirme l'entrée au paradis pour ceux pour qui les textes l'ont affirmé. C'est le cas ici de Ukasha, qui fait partie de ces 70 000. Ukasha est mort, martyr, après avoir été tué, rahimahullah ta'ala, dans la bataille contre Musaylimah al-Kadhab, un homme qui a prétendu à la prophétie, qui a tué quelques compagnons. Radiallahu anhu. L'autre homme s'est levé et a dit, invoque Allah afin que j'en fasse partie, moi aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha t'a devancé. Il ne lui a pas dit, toi tu n'en fais pas partie. Il ne lui a pas non plus dit, tu en fais partie. Mais il lui a dit, Ukasha t'a devancé. Cheikh Abd al-Razzaq a dit, pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi, sallallahu alayhi wa sallam? Pour mettre un terme directement, car sinon, le deuxième, si le prophète lui dit toi aussi, que va-t-il se passer? Les autres vont se lever. Et là, peut-être que quelqu'un va se lever et qu'il n'en fait pas partie, et de dire devant tout le monde, tu n'en fais pas partie. Comprenez? Parce que c'est ce qu'a dit Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah ta'ala, et on voit la sagesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Kana rasul sallallahu alayhi wa sallam, alima anna hadha rajul la yasilu ila hadhi al-martaba. Al-Sheikh al-Fawzan lui dit, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que cet homme n'a pas atteint ce niveau. Donc chez certains parmi les ulama de la sunna, le prophète a su qu'il n'a pas atteint ce niveau, il n'a pas voulu lui dire. Alors il a dit, Ukasha t'a devancé. Walakin ma jabahahu bi kalamin yakrahu. Mais il n'a pas voulu lui donner une parole qu'il détesterait entendre. Tu ne fais pas partie des 70 000. Mais d'autres ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit qu'il n'en fait pas partie et ne lui a pas dit non plus qu'il en fait partie. Il a voulu fermer la porte. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa lam yaqul lahu anta la tastahiq. Le prophète ne lui a pas dit tu ne le mérites pas. Il lui a plutôt dit sabaqaka biha ukasha. Sabaqaka biha ukasha. On raconte qu'il y avait un empereur qui s'est vu en rêve. Il a perdu toutes ses dents. Il a appelé quelqu'un qui connaît l'interprétation des rêves. Et il lui a dit, je me suis vu en rêve en train de perdre toutes mes dents. L'homme lui a dit, tu vas perdre tous les gens de ta famille. Tu vas tous les voir mourir. Il l'a exécuté. Il l'a tué. Puis il a appelé un deuxième homme. Je me suis vu en rêve en train de perdre toutes mes dents. Le deuxième homme lui a dit, tu vas vivre plus longtemps que les gens de ta famille. Et il l'a laissé partir. C'est la même réponse. Mais c'est le hikmah fil jawab. Et des fois les savants, ils utilisent ce genre d'histoire, même si c'est pas comme la science du hadith, on cherche pas vraiment le degré d'authenticité, c'est simplement pour tirer les sagesses, et c'est aussi pour vous reposer. Tayyib. Alhamdulillah. Donc, ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Il y a quelques fawa'id, quelques intérêts, parmi lesquels la permission de faire ruqya pour le mauvais œil et les piqûres de scorpions et d'insectes venimeux. Le mérite de Moussa alayhi salam. La motivation des compagnons radiallahu anhum dans la recherche de la science. Ils ont discuté, ils ont débattu, ils cherchent ce qui les rapproche d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il est réprouvé de demander aux gens. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yastaqoun wa la yaktawun. Ils ne demandent pas la ruqya ni la cautérisation. Il y a aussi la permission de se soigner par la cautérisation. C'est quand même permis, n'est-ce pas? Mais c'est détestable. Il y a parmi les fawa'id de ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sait que Ukasha fait partie des gens du paradis, c'est un signe de sa prophétie. Il y a aussi la permission d'utiliser des phrases, si vous voulez, pour éviter une chose ici. Il a voulu éviter, selon Cheikh Fawzan, hafidhahullah, de lui dire « tu n'en fais pas partie ». Donc il a utilisé une autre phrase, comme l'histoire du rêve là. Voyez. Et il y a aussi parmi les fawa'id du hadith, demander de dalil dans le madhab. Tu étudies un madhab et tu demandes, tu cherches le dalil. Ton dalil, c'est pas le madhab a dit. Ton dalil, c'est « qala Allah, qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam ». Et de s'arrêter à ce que tu as entendu. Et enfin, la preuve que celui qui concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement et sans châtiment. Alhamdoukallah. Ainsi s'achève l'étude du troisième chapitre de Kitab al-Tawhid. Bab man haqqaqa al-Tawhid dakhal al-jannata bighayri hisab. والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك